Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, mardi 11 juin, heureuse d'être avec vous jusqu'à midi pour commenter l'information. À partir de 11h, on parlera des urgences, on parlera de Jean-Luc Mélenchon, on parlera de la publicité pour les voitures. Deux députés veulent faire interdire les publicités pour les voitures qui ne seraient pas des voitures électriques. Et puis on a appris ce matin qu'il y avait eu un premier mort en trottinette ce matin à Paris. Peut-être l'occasion de reparler aussi des trottinettes. Et puis évidemment les médias entre 10h et 11h avec vous, avec Rémi Pernelet, Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Merci d'être là. On va parler du bac avec une application, parce que les médias sont évidemment aussi les applications qui font partie de nos écrans, de nos vies. Une application très très maligne qui s'appelle StudiTrack et qui permet de réviser le bac en chanson, enfin certains thèmes du bac. Vous savez qu'on
en rap
avec Joe Star. Donc bon, c'est dans un peu moins d'une semaine.
Aussi.
Voilà, c'est dans un peu moins d'une semaine, mais bon, quelques chansons dans la tête et puis ça peut peut-être
ça peut peut-être
vous sauver la vie. Et puis on parlera de la saison 2 de La Servante Écarlate, enfin la saison 3 plutôt, qui arrive avec Alain Carazé. Voilà. On attend vos réactions. 0826 300 300. Qu'avez-vous regardé ce week-end? On vous attend également sur le Facebook Live de l'émission. On commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, on commence par quoi? Par le carton?
Bah oui, bah le carton du week-end évidemment, c'est pour TF1 vendredi. 9 829 000 téléspectateurs et 44,3% de part de marché pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football féminine entre la France
et
la Corée du Sud. Bah oui, il nous manquait 5 millions dans nos prévisions.
On a dit 10 millions.
On a dit la moitié, oui. Ouais, si on ajoute, d'ailleurs, si on ajoute les 826 000 téléspectateurs de Canal, ça fait 10 655 000 téléspectateurs. Il y a une pointe à plus de 11 millions. TF1, évidemment, largement leader de la soirée. C'est un record historique pour un match de la Coupe du Monde féminine. Et puis, c'est aussi 5 millions de plus que le match d'ouverture de la Coupe du Monde masculine le 14 juin 2018 entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Je signale que TF1, qui était également leader samedi avec un match de l'équipe de France de foot masculine contre la Turquie, a réuni 5 55 000 téléspectateurs, 26,7% de part de marché. Donc, 4 800 000 téléspectateurs de moins pour le match des garçons par rapport au match des filles.
En tout cas, personne ne pouvait imaginer un tel score. Hein.
Mais non. D'ailleurs, on le sait,
même TF1, qui va revoir ses tarifs publicitaires.
Ils ont prévu de changer les tarifs publicitaires dès aujourd'hui, pour le match de demain, notamment entre la France et la Norvège. Donc, c'est quand même un l'événement absolu. Ouais. Alors évidemment, TF1 était encore leader hier soir. 4 225 000 téléspectateurs et 18% de part de marché pour le prime de Demain nous appartient. C'est un bon score.
Ouais. C'est un bon jeu. Important.
700 000 téléspectateurs de plus que le dernier prime de Plus belle la vie, par exemple, le 15 janvier dernier sur France 3. Donc, c'est un très bon score pour le prime de Demain nous appartient. C'était le premier.
Eh bien, ça promet, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Voilà, le gadin.
Eh bien, un gadin pour France 3, vendredi, seulement 869 000 téléspectateurs, 3,9% de part de marché pour le documentaire Je me présente, je m'appelle Daniel, sur Daniel Balavoine. Ouais. C'est 900 000 de moins que la semaine dernière. Évidemment, il y avait l'effet du match de foot.
10 millions, j'allais vous dire.
Enfin, malgré tout, signaler que le documentaire sur Alain Chamfort, qu'on recevait vendredi, il a été diffusé à 22h50, il a réuni 625 000 téléspectateurs.
Ah, c'est un bon score.
C'est un très bon score.
7% de part de marché, c'est mieux en part de marché que le prime, donc c'est un très bon score. Oui.
Très bien. Le gadin?
Alors le gadin, je viens de le dire.
Oui,
mais
la surprise.
La surprise, ce sont les audiences pour Roland Garros sur France 2. 3 309 000 téléspectateurs et 29,7% de part de marché pour la finale homme entre Nadal et Thiem. C'est le même score que l'an dernier, mais 2 points de plus en part de marché. Et puis une bonne audience aussi pour la fin de la demi-finale homme la veille, le samedi, entre Thiem et Djokovic. 2 340 000 téléspectateurs. Bon, en fait, c'est un bon bilan pour Roland Garros sur France Télévisions. La finale a réuni 200 000 téléspectateurs de plus qu'en 2017, par exemple.
Ouais, mais avec une réalisation assez formidable. Je crois que cette nouvelle caméra, la Spider.
C'est comme une sorte de Spider.
Comme une sorte d'araignée. Ouais,
voilà, qui est sur un chenin et qui mettait. Cette année, on avait des caméras sur le côté. C'était vraiment très très beau. Très
il y a encore eu des interruptions à cause de la pluie, oui. mais ce sera la dernière année, puisque l'année prochaine, il y aura un toit. Donc de toute façon, il n'y aura peut-être pas tous les matchs, mais il y aura au moins un match, même en cas de pluie. Je voudrais signaler peut-être une bonne surprise aussi pour C8 hier, 1 354 000 téléspectateurs pour le film d'action Balade entre les tombes avec Liam Neeson. Et puis du côté des talk shows d'Access, très bon démarrage de semaine. Quotidien en tête de justesse. 1 593 000 téléspectateurs pour Yann Barthès. Il recevait Jean Dujardin quand même. Juste devant Touche pas à mon poste sur C8, 1 543 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna qui a fait énormément de débats, de récapitulatifs.
Et voilà. C'est à vous.
Et c'est à vous, 1 129 000 téléspectateurs. C'est en troisième position. Bon, meilleur score que la semaine dernière.
Qu'avez-vous regardé, vous, hier à la télévision? 0826 300 300, ou plutôt ce week-end. On a Paul en ligne avec nous. Bonjour, Paul.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben, très bien, et vous?
Très bien.
Alors,
moi, ce qui m'intéresse actuellement, je regarde les femmes en foot.
Ah oui, hein, vous étiez convaincu à la base ou pas, ou vous y êtes allé?
Oui, j'étais convaincu. D'abord, puisque j'adore les femmes, et particulièrement la mienne.
Elle joue au foot.
Elle joue pas au foot.
Non.
Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, quand on les regarde, elles se prennent moins la tête. Ouais. C'est moins bling-bling. Ouais. Je regarde, alors pour tout vous dire, je regarde le foot des hommes quand il y a la Coupe du Monde, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans, vous voyez un peu ce que je veux vous dire.
Ouais.
Puisqu'ils me dégoûtent avec leur fric, leurs histoires, je suis tombé, je me suis fait mal, je me suis égratigné, hop, c'est un cancer, quoi, une égratignure. Hein. Mm. Donc il faut arrêter le cinéma. Non, les femmes sont beaucoup plus simples. Au foot, hein.
Au foot. Bon, si très bien.
Si c'est pas le cas partout, elles sont plus simples.
Bon, très bien. Merci, Paul.
Mais c'est vrai qu'il y a plus de fraîcheur dans les matchs de foot féminin. Il y a eu beaucoup de spectateurs et de téléspectateurs qui se sont exprimés là-dessus. Et je trouve que moi, j'étais surpris par la qualité quand même du spectacle, même d'un point de vue footballistique pur.
Cantou nous dit, d'accord avec vous, Valérie, c'est superficiel tout ce foot de la com. C'est facile de regarder, sachant qu'elles vont aller loin et ont des chances de gagner. Des sportifs championnes, il y en a eu en escrime, cyclisme, judo. C'est vrai, ce ne sont pas des mannequins de sade, tout ça entre guillemets, bien entendu, entre guillemets. Mais écoutez, on verra demain le match contre la Norvège, effectivement, le score que ça va donner. On a un autre appel, on a Jonathan en ligne. Vous aussi, vous avez regardé le foot, Jonathan?
Oui, bonjour, c'est de Radio.
Bonjour
à tout le monde.
Bonjour.
En fait, oui, j'ai regardé le foot. On nous a tellement parlé de foot féminin, alors j'ai voulu jeter un œil, on va dire. Et j'étais surpris de quelques joueuses, comme Wendy Renard, qui a très bien joué. Mmh. Et après, j'ai mon garçon qui est fan de foot de 12 ans. Mmh. Alors, on a dû regarder le foot masculin. Là, j'ai rien pu faire. La télé, elle est allumée, je pouvais pas zapper. Et lui, il a été déçu de Mbappé. Il m'a même dit, papa, il a pris le melon.
Ah, bon, écoutez, donc...
Il a regardé les filles ou pas, votre fils de 12 ans?
Comment? Il voulait pas, mais on l'a mis et il a été étonné.
Ouais. Ah bon,
étonné, il a dit qu'il y a moins de chichis.
Et vous allez regarder demain, alors, du coup, face à la Norvège?
Sûrement, il va sûrement vouloir, on essaye, parce que nous, on n'est pas trop fous, mais quand il le voit, on ne peut pas faire autrement que lui laisser le voir. Mais s'il nous dit de le mettre, on le mettra. Mais c'est vrai qu'on a été étonnés du match féminin. Mmh. Mais ce que je suis plus étonné, c'est que comme moi je regarde les médias, je cherche par moi-même les informations. Mmh. Et je suis tombé sur une vidéo sur les joueurs français qui parlaient de leur salaire et le salaire masculin.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça aberrant quand même. Que
ah bah oui, la différence.
La différence énorme.
Incroyable. Ouais,
c'est pas le salaire des filles qu'il faut monter, c'est le salaire des hommes qu'il faut baisser.
Ouais.
Parce que la preuve, on le voit sur le terrain, c'est ils ont pris le melon.
Oui, absolument. Bah, écoutez, merci de votre appel. On a Claudine qui nous dit qu'elle a regardé hier l'excellent film Un crime au paradis. Alors, c'était drôle parce qu'il y avait deux films. Il y avait sur France 2
la série Meurtre au paradis
et Crime au paradis. Donc, deux paradis.
C'était une thématique paradis,
voilà,
pour France Télévisions.
Pour France Télévisions. On a Fanny en ligne avec nous. Bonjour, Fanny.
Oui, bonjour.
Ah, on vous entend mal.
Bonjour.
Fanny, mais bougez-vous. Mettez-vous dans un autre endroit.
Ah, ça y est, c'est mieux.
Bonjour à toute l'équipe.
Hein. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé?
Il y a déjà plus vieux.
Ah, on ne vous entend pas, Fanny, hélas. On va passer au zapping, je suis désolée. On va essayer de vous récupérer après. Gilles, on le zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Bon, bah, du sport. Je pense que le mois de juin, ça va être un mois très sportif. Rémi vous en a parlé, même si c'est un peu déjà loin. Mais dimanche, quelle performance pour Nadal face à l'Autrichien Thiem. Un moment comme ça, Laurent Langaros peut nous offrir. Bon, j'ai pas résisté. Écoutez la balle de match.
Il n'y a pas d'équivalent sur la planète sport, il n'y a pas d'équivalent sur la planète Terre. Raphaël Nadal est le roi de Roland-Garros et remporte sa 12e couronne cet après-midi en 3h01 de jeu face à l'Autrichien Dominic Thiem. Formidable combattant à qui il faut rendre hommage cet après-midi. Mais Nadal, une fois encore, était quasiment injouable. 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, c'est phénoménal.
Ouais. Voilà, des grands moments de sport, Rémi.
Non, c'est vrai que c'était déjà la finale de l'année dernière, mais qui avait été expédiée très rapidement en 3-7 par Nadal. Dominic Thiem n'avait pas existé. Là, ça a été un vrai match. Et quelque part, pour une fois, je suis d'accord avec les superlatifs des commentateurs sportifs, c'est vrai que Nadal était sur une autre planète Terre, enfin Terre battue, hein, pas...
Oh
Terre,
Mais... Non, mais il est très très fort. Moi, je suis fan, totalement fan
de Nadal. Sport avec la polémique, évidemment, du moment dont vous avez parlé hier, Valérie, dans votre émission, les propos du journaliste Daniel Riolo avec l'ancien joueur Jérôme Roten, qui se glosse sur l'affaire Neymar et le physique de la femme l'accusant de viol. Je vous mets le son pour un rappel et après, j'ai de la nouveauté.
Dans l'histoire à Neymar, je peux plus m'empêcher de penser à un truc un peu con. Hein. Vous me permettez 5 minutes. La nana. Tu l'as vu la nana?
Ouais, j'ai vu.
Enfin, tu fais venir une nana du Brésil.
Non, non, bah, attends, effectivement, c'est très con.
Je m'attendais à ce que ce soit avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu.
C'est de la deuxième division, ça.
Non, les gars, franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2.
Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une ligue.
Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle?
Mais c'est pas un débat parallèle, c'est une histoire.
Non, rien à voir. Le débat parallèle.
Attends, quand tu t'appelles Neymar,
t'as un minimum de qualité,
quand même. Je sais pas, peut-être que lui kiffe. Et puis, normalement, c'est Champions League. Et au moins, ça passe les huitièmes.
Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois, ça débarquer. Et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde.
Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi.
Évidemment, deux réactions. Évidemment, le FC Lorient a réagi puisque son président a demandé qu'il soit. Me faites pas rire.
C'est vrai.
Oui. Le patron du FC Lorient a demandé le départ des excuses et le départ de la radio. Ils ont été.
C'est pas le pire dans ce qui a été dit quand même. Enfin, bon.
C'est très drôle. Ouais, ça je savais pas. Ouais.
Et donc également, évidemment, ils ont été suspendus.
Ils sont sentis
insultés. Les filles de Lorient. Ils ont été suspendus de l'antenne. Et hier, Géraldine Maillet, qui est la compagne dans la vie de Daniel Riolo, a évidemment été interrogée dans Touche pas à mon poste et elle a réagi.
Vous êtes choqué par la suspension d'antenne.
Oui, parce qu'en fait, Valérie a tout dit. Effectivement, c'était totalement raté, déplacé.
Est-ce que vous en avez parlé avec Daniel?
Moi, j'ai envoyé un texto pendant l'émission.
C'est vrai?
En disant, mais c'était pas drôle, d'où? Enfin, moi, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la vanne est complètement...
Genre, quand il est rentré le soir, pas de dessert?
Si, bien sûr, toujours des desserts. Et de toute façon, vous en savez quelque chose. 2 heures d'émission en direct tous les soirs, depuis 12 ans, avec ce côté, effectivement, café du commerce, c'est pas toujours évident. D'abord, je voudrais dire à Mathieu que la blague, même si elle est pas bonne, évidemment, et très, très gênante, elle est totalement décorrélée de l'histoire du viol.
Exactement.
Ils le disent 2-3 fois, ils recontextualisent d'un autre côté, et effectivement, c'est comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit sexiste ou que ce soit pas sexiste, les footballeurs sont connus pour quitter leurs femmes, les historiques, et prendre des top modèles. Voilà, c'est affreux, mais c'est comme ça.
Quel rapport avec la choucroute, sans déconner. Pardon.
Ça y est, je vous ai énervé.
Quel rapport, je trouve ça absolument dingue. Effectivement, Loïc Ferry, qui est le responsable, le président du FC Lorient, n'est pas content. Il demande le licenciement de Daniel Riolo. À suivre.
Moi, ce que je trouve, ce qui m'a amusé, c'est la réaction de Nicolas Vial, qui est l'animateur de cette émission RMC Sport, sur la chaîne RMC Sport, et qui n'arrête pas de leur dire « arrêtez les mecs, il est un peu dépassé par la situation. Et en fait, ils sont inarrêtables, ils sont complètement inarrêtables.
Oui, parce qu'ils se renvoient la balle, et c'est celui qui...
Donc c'est hallucinant, quoi.
Et pour finir, dans Quotidien sur TMC, les équipes de Yann Barthès ont suivi, Yes Anouenès, vous savez, homosexuel, qui avait fait l'objet d'un reportage d'Envoyé spécial.
On avait reçu d'ailleurs.
Donc on avait reçu, et dont sa volonté était de rester en Seine-Saint-Denis malgré l'homophobie et les agressions qu'il subissait. Ce week-end avait lieu pour la première fois en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, la première marche de fierté gay. Et parmi les manifestants, il y avait donc Yes Alouane, qui a bien sûr tenté d'interpeller un élu de Saint-Denis qui était là. Il s'agit de Adjid Saoudienne, qui est en charge des discriminations. Vous allez voir ce qu'il lui a répondu.
Tout le monde le sait, c'est plus difficile de vivre son orientation sexuelle et son identité de genre dans les quartiers populaires qu'à Paris. On sait très bien que qu'en banlieue, dans les quartiers populaires,
tu dis ça, tu te bases sur rien.
Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs.
Moi, je vais te dire, les faits, c'est quoi?
Aux cultures, à Paris, c'est dû aux religions et à l'éducation.
Ça, c'est le discours du Front National. Moi, ce que je te dis, la réalité dans les quartiers populaires,
pas du tout, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique.
Tu peux pas globaliser et généraliser comme tu.
Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels.
Eh oui, mais d'accord, on a tous des amis qui. Oui, mais moi, j'en ai qui se cachent pas.
Tout le monde se cache.
Moi, j'en ai qui se cachent pas. On fait quoi?
Eh bien, heureusement qu'il s'occupe de la discrimination, ce monsieur. Ouais. Qu'est-ce que ça serait s'il ne s'en occupait pas?
Absolument. On a un auditeur, Éric Leriche, qui nous dit, dans la catégorie « Je commence le film en retard », The Winner is TMC devant C8. Résultat, je n'ai pas vu la coupure pub du milieu car je me suis endormie avant. Et oui. J'ai vu, moi, les bandes-annonces hier sur C8 qui annonçaient un film à 21h qui a commencé, je pense, à 21h15. Mais Éric a raison, TMC a rendu après Cyril Hanouna hier. Donc visiblement, le CSA a eu du poids dans cette réunion des patrons de chaîne. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de cette application incroyable.
21h25, ils ont commencé.
21h25, TMC.
Oui. Ouais, bah, 21h25, voilà. Men in Black 2.
Bah ouais, peut-être falloir qu'il se passe des choses quand même. Allez, on se retrouve dans un instant. Comment réviser le bac en chanson? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio. Alors, on parle médias, mais on parle également multimédia. On vous parle régulièrement d'applications. Et là, c'est une application extrêmement précieuse et utile pour préparer le bac. Alexandre Houpert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de StudyTrack, qui est une application qui a pour but d'aider nos lycéens à préparer le baccalauréat, mais d'une façon tout à fait originale. Alors, racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, Valérie. Donc, StudyTrack, c'est une application qui a été créée il y a 3 ans. Oui. En fait, on est parti du principe qu'il était facile de se rappeler des paroles de chansons. Tout le monde le sait.
Oui.
Et sur ce principe assez basique, assez simple, mais on l'a dupliqué et on a créé avec une équipe de professeurs des fiches de révision, des résumés de cours qu'on a mis en musique. Et donc aujourd'hui, il y a 1500 chansons. On couvre en France le brevet et le bac.
Alors on va écouter un extrait.
Ah oui, il faut dire que vous avez fait appel pour certaines de ces chansons à Joëstar et vous voulez voir ce que ça donne.
Bah oui,
la résistance, par exemple, par Joëstar, ça donne ça.
Joëstar sur StudyTrack.
Histoire.
En France de la résistance, dès 1940, suite à l'invasion nazie, des civils s'organisent pour lutter contre l'occupant, traqués par la Gestapo, les SS et Vichy, les résistants agissent dans la clandestinité.
Voilà ce que nous faisons.
Voilà.
Mais c'est sérieux ou c'est une blague?
Non, c'est sérieux. En fait, au départ, c'était un ami qui est producteur de musique à Londres qui avait un problème avec son fils que finalement beaucoup de familles partagent, c'est l'échec scolaire. Et donc, on a eu l'idée de créer une première chanson de physique. Et on a vu que ça marchait, c'est-à-dire qu'il a repris goût à l'apprentissage. Et donc c'était pas une blague. Au début, effectivement, on s'est dit, tiens, on va faire une musique, une chanson sur la physique, ça va être rigolo. Et petit à petit, les professeurs sont venus nous voir, on dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on a décrit ce que nous faisions. Et après, il y a des scientifiques qui sont venus nous voir et ils nous ont dit...
Oui, c'était ma question, est-ce que scientifiquement, c'est prouvé?
En fait, c'est...
C'est-à-dire que des paroles de chansons, c'est ludique, là, c'est quand
y a
même
Moi, j'ai découvert, il y a 3 ans maintenant, ouais. Il y a des chercheurs sur la science cognitive. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce que c'était que les sciences cognitives. Et il y a des chercheurs dont Emmanuel Bigand du CNRS qui nous accompagne maintenant depuis 3 ans. Et grâce à lui, on a réussi à créer des chansons qui maximise la rétention d'informations. Mmh. Donc on mise sur la répétition. On répète vraiment. Vous voyez, Joey Starr a répété plusieurs fois la résistance. Donc ça rentre dans la tête. Et c'est un moyen ludique, mais effectivement efficace d'apprendre.
On s'adresse plutôt aux élèves en échec scolaire. Parce que ça semble quand même assez basique, le message de départ. Hein. Oui, la résistance en 1940. J'espère qu'au niveau du bac, on sait ça quand même.
Là, c'est une chanson du brevet. Merci de l'avoir noté.
Même au niveau du brevet, pardon, c'est en troisième.
Oui, non, mais là, parce qu'on a eu...
Il y a brevet et bac, hein, j'ai dit bac, mais il y a brevet
et bac. On a eu juste 10 secondes de chanson. Oui. Mais les fiches de révision sont vraiment faites par des professeurs d'éducation nationale qui veillent, en fait, à donner les informations les plus importantes. Et ensuite, c'est le talent de notre équipe de musiciens de les mettre en musique pour que ça sonne bien. On n'est pas là pour remplacer les professeurs, on est là pour aider les professeurs.
Et les élèves.
Et
surtout.
Les élèves, mais les professeurs à intéresser les élèves. Et les élèves, certains, oui, ils sont en échec scolaire. Et moi, je suis fier lorsque j'ai des parents qui m'envoient des emails ou qui m'appellent en disant « Alexandre, vous avez réussi à faire en sorte que mon fils reprenne l'école. » Enfin, c'est fantastique.
Oui, reprenne l'envie d'étudier.
L'envie d'apprendre.
350 000 téléchargements. C'est ça. Et puis 150 000 fois en France, parce que
on augmente encore.
Vous augmentez encore. Bah, la période, tous les jours, ça augmente un peu. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer cette discussion. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Joey Starr, donc il y a l'affaire Dreyfus pour le bac dans la catégorie histoire, pour le bac L, E, S et S, la liberté en philosophie pour les filières L, la résistance pour le brevet des collèges, ce qu'on a entendu, on a un autre extrait aussi.
La liberté,
philosophie, la liberté, définition.
La liberté est le fait de disposer de sa personne et de ses biens.
Sans contraintes naturelles ou sociétales, sans aucun obstacle physique ou même moral. Le choix est partie intégrante de la liberté. L'humain est l'auteur et le maître de ses actes. Et sans contraintes naturelles ou sociétales, sans aucun
obstacle. Il a son bac, Joey Starr ?
Alors, il n'a pas son bac.
Je me posais la question. Voilà.
Non, il a
et
pas
maintenant,
son bac,
il peut le passer grâce à lui.
Oui. Enfin, je tiens à saluer vraiment son engagement, puisqu'en fait, j'ai été le voir comme ça, en lui proposant
comment
le projet.
Comment s'est passée la rencontre ? Pourquoi
une
lui ?
Une rencontre
comment,
vraiment fortuite, comme ça, dans la rue. J'ai vu Joey Starr, j'ai dit, il faut vraiment que je lui présente. Et j'y suis allé, j'ai présenté mon projet. Il m'a dit tout de suite, j'adore ce que tu fais. Et honnêtement, texto, si ma notoriété peut aider des jeunes à réussir le bac alors que je ne l'ai pas eu, eh ben on y va. Et j'étais assez surpris, je pensais, et non, on a tout de suite enregistré en une semaine, et là, il donne de son temps, et franchement, je tiens à saluer.
Il n'y a pas que lui, effectivement, non, qui sont les autres
Alors, il y a Soprano aussi, pareil, la même chose, Soprano, on a fait le théorème de Thalès pour le brevet, et on a fait le bonheur, philosophie en terminale, et puis là, du coup, il y a un vrai engouement, il y a d'autres artistes qui sont venus nous voir, et voilà, c'est une manière vraiment authentique.
Ça coûte combien, pardon ?
Alors l'application est gratuite au téléchargement, on a 3 chansons gratuites par matière, et ensuite pour avoir accès à tous les QCM et toutes les chansons, c'est 4,99€ par mois.
D'accord, ce qui n'est pas très très cher. Rémi,
alors on comprend bien, c'est vrai, on se rend compte que sur la philosophie, sur l'histoire, ça fonctionne. Alors par contre sur la physique, la chimie, comment c'est possible
Vous avez la même réaction que j'ai eue au départ. Ouais. Et en fait, en maths et en physique, il y a quand même beaucoup de formules, de lois, loi de Newton, théorème de Thalès, les développements limités, etc., etc. Donc en fait, ce que l'on fait sur les maths et la physique, on va donner sur de la musique, sur du rythme, les formules à connaître. Ensuite, évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, mais si un élève au brevet, il a le théorème de Thalès dans la tête et que le professeur, l'enseignant, lui a appris à l'appliquer, eh ben on aura gagné.
Mais est-ce que vous savez si ça existe à l'étranger ? Est-ce que vous voulez l'exporter ? C'est une idée française.
On a créé ça à Londres, en Angleterre. Donc ça a tout de suite bien pris. Et ensuite, on est allé aux États-Unis. Donc on a maintenant près de 250 écoles en Californie qui utilisent cette application. Ah si, il y a un engouement extraordinaire. Et donc je suis français, la majeure partie de l'équipe est française, donc on voulait proposer StudyTrax en France. J'ai rencontré le ministre vendredi dernier, l'accueil est franchement positif, après on va voir ce que ça donne, mais on a fait déjà des tests en France, dans l'Académie de Poitiers.
C'est ça, la question c'était comment l'ont reçu les autorités, l'ééducation nationale et les enseignants.
Voilà, on est français, on vient des États-Unis, on se dit, oh, ça va être dur. Mais honnêtement, on a eu un accueil qui est extraordinaire.
Il y a des écoles qui s'en servent.
Bien sûr, j'étais à Aulnay-sous-Bois vendredi, avec une professeure, je peux la citer,
Madame
Clark, Lydie Clark, qui est extraordinaire. et qui utilise Studytrax. Et donc, il y a, voilà, ça commence. On a fait des tests avec l'éducation nationale dans l'Académie de Poitiers qui était concluant. Voilà.
Comment les écoles, vous dites aux États-Unis, il y en a 250, comment est-ce qu'ils utilisent cette application ? C'est-à-dire que ça rentre carrément dans le cursus
Ils utilisent, et les professeurs qui nous écoutent vont comprendre, en pédagogie inversée. C'est-à-dire que le professeur va dire, on va faire l'ADN, vous parlez de physique, de sciences, de l'ADN dans 3 jours. Vous m'écoutez cette chanson, vous allez avoir dans votre tête déjà les principaux, les fondements de cette notion. Après, on travaille dessus.
Et on fait des exercices en cours.
Et c'est génial, fait, ça fait gagner un temps.
Ouais, la grande tendance qui est de demander aux élèves maintenant d'apprendre les cours. Et pendant les cours, c'est, on les met en application.
Exactement. Ouais. Et avec Studytrax, ils peuvent écouter en prenant le bus, en allant dans l'école, en jouant avec des potes, en faisant du sport et tout ça. Et j'adore, parce que sur les réseaux sociaux, on a vraiment plein de témoignages d'étudiants qui sont comme ça. Et on fait gagner du temps aux professeurs.
Et comment vous mesurez vraiment l'efficacité ? C'est-à-dire que, OK, vous avez des retours, mais comment on peut...
Bah, écoutez, en fait, maintenant, on a quand même assez de recul. À chaque fois qu'on pose cette question, il y a trois façons de répondre. Premier, c'est les retours des parents et des élèves que l'on a. On a des centaines de retours positifs. Encore là, il y a un étudiant qui a passé le bac l'oral et me dit, j'ai cité ça, ça a marché. Je dis, ok, super. Et il l'avait dans la tête.
Cité en chantant comme Joe Star, ou...
Je vous jure que c'est vrai. Je vous montrerai. Voilà, premier point. Deuxième point, on a des scientifiques qui travaillent avec nous. Emmanuel Bigan, j'ai cité, Laura Ferreri, qui nous explique pourquoi ça fonctionne. Et on a aussi des cabinets indépendants qui ont testé avec Studytrax, sans Studytrax. Donc tout ça, on a un bagage scientifique. Et ensuite, on a aussi le témoignage des professeurs. Quand on a une école qui me dit cet élève était en échec scolaire complet, je lui ai dit écoute ça, il est revenu en cours. Bon, voilà, on a gagné. Enfin, on a fait déjà un premier chemin.
Le choix de Joestar, il est symbolique aussi. C'est-à-dire que c'est du rap, ce sont des chanteurs populaires. Chez les élèves, est-ce que c'est important de l'avoir choisi lui précisément ?
C'est pour moi,
est-ce que
c'est
le message
très important.
Est plus facile.
Alors il y a quelque chose, je veux mettre tout de suite, d'accord. On ne va pas faire que du rap.
Ouais. Et France, j'ai vu qu'il y a Bob Sinclair, vous allez avoir bientôt.
Il arrive. Ouais, Bob, on va faire des choses sympas.
Il y aura pas Lara Fabian, Mylène Farmer.
Je suis ouvert à tout le monde. En fait, je suis ouvert à tous les artistes qui parlent aux jeunes.
Mais Bob Sinclair, ça va être quoi ? Il va mixer.
On va voir. Je reviendrai
pour nous le dire.
Donc moi je suis ouvert en fait à tous les artistes qui parlent aux jeunes. Un point important, c'est qu'on ne fait pas que du rap, mais on fait de la musique qui parle aux jeunes. La France est assez, on va dire, complexe d'un point de vue style musicaux. Il y a énormément de styles musicaux, donc voilà, on va. Et pourquoi Joestar ? Joestar, c'est quelqu'un qui parle fondamentalement aux jeunes. C'est quelqu'un qui est vu comme le roi du hip-hop, même s'il aime pas quand on dit ça, mais c'est quand même la personne qui a emmené le hip-hop en France. Quand j'étais déjà un peu petit. Et donc ça, pour moi, c'est un vrai leader de pensée dans la jeunesse. Et donc si on peut, si ça peut être utile, Joestar, évidemment, il travaille.
Vous voyez dans les téléchargements les matières qui sont les plus plébiscitées, ce sont lesquelles ?
Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est l'histoire. L'histoire, qui il y a beaucoup de connaissances,
beaucoup de choses à retenir de mémoire.
Et vous êtes un peu concurrent de toutes les grandes écoles de cours par correspondance qui veulent faire du soutien scolaire. C'est également un secteur qui se développe énormément. Vous êtes concurrent, complémentaire. Vous allez me...
Alors moi, je suis concurrent honnêtement de personne. Ce qui m'anime, c'est que ça marche.
Ouais.
Ce qui m'anime, c'est qu'il y ait des jeunes qui réussissent à l'école et qui progressent. Si les sociétés de cours par correspondance viennent me voir en disant fin partenariat, évidemment,
ce sera une bonne idée. Mais la question, c'est, on apprend par cœur, et après, est-ce qu'on comprend ce qu'on apprend ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de restituer dans un raisonnement ? C'est-à-dire autre chose que du par cœur.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. On ne va pas faire des générations de jeunes qui connaissent par cœur tout. Ce serait inutile. Ce que l'on veut, c'est qu'ils connaissent les bases, les fondements, et qu'ensuite, les enseignants, ou même par eux, par leur propre recherche, aillent plus loin pour appliquer les notions qu'on leur aura mis dans la tête.
C'est une idée qui, vous dites, vous avez rencontré le ministre, il trouve ça intéressant, il pourrait vous l'appliquer et essayer de s'en servir.
L'appliquer, non, mais non. Vous savez, je veux pas commenter pour le ministre, évidemment, mais la musique est quand même importante dans leur dispositif. C'est quand même un ministre qui a fait le plan choral. Donc évidemment, on fait de la musique pédagogique, donc il y a évidemment un centre d'intérêt. Après, on va voir, il n'y a pas que ministre, il y a des gens aussi qui travaillent au quotidien sur cette thématique-là, avec qui on est en relation. Donc j'ai bon espoir de pouvoir déployer l'application.
Ça pourrait devenir une émission de télé, non ?
On m'a déjà proposé.
C'est vrai.
On m'a déjà proposé une comédie musicale. Une... Ouais. Voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes qui bossent, ouais. qui bossent en écoutant de la musique et qui
je vois un prof d'histoire qui disait, après tout, les grands textes comme l'Iliade et l'Odyssée à l'origine étaient chantés, donc c'est un retour aux sources.
C'est vrai.
Finalement.
Qui a eu l'idée, cette idée folle d'inventer l'école. Voilà.
En tout cas, c'est.
Et ça, vous l'avez bien dans
mais
la tête, ça marche.
C'est vrai qu'on se dit qu'on retient les paroles de chansons, donc pourquoi pas, c'est une idée astucieuse, maligne. Donc, Studytrax, il est encore temps de préparer le brevet, le bac, et on se réécoute un petit moment de... C'est quoi? C'est La Liberté, c'est ça? Des civils s'organisent pour lutter contre l'occupant. Traqué par la Gestapo, les SS et Vichy. Voilà, c'était la résistance par Joe Star pour le brevet. Alexandre Houpert, donc cofondateur de Studytrax. Merci à vous d'être venu.
Merci de m'avoir
invité. J'allais la télécharger, Valérie.
Oui,
ça va. Je vais un peu réviser.
Vous pouvez
mon
réviser.
Français,
hein, voilà. Oui, oui, vous pouvez tout réviser.
Je reviens quand vous voulez, Valérie.
Eh bien, vous reviendrez. Merci à vous.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, entre 11h et midi, on commentera l'actualité, on parlera des urgences. Racontez-nous, vous, comment vous faites si vous allez aux urgences, comment ça se passe près de chez vous, est-ce qu'il y a des médecins? 0826 300 300, ce sera à partir de 11h. Mais pour l'instant, c'est notre spécialiste série Alain Carazé qui est avec
Bonjour,
nous.
Valérie.
Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Je rappelle qu'on peut vous écouter sur le site de Télé Loisirs avec votre podcast Previously, podcast passionnant qui cartonne d'ailleurs, dans lequel vous racontez l'histoire des séries. Et là, l'actualité, l'événement, c'est la troisième saison de La Servante Écarlate.
The Handmaid's Tale, qui sera d'ailleurs le sujet du podcast de demain.
Eh ben voilà.
Pendant une demi-heure.
Donc on a une sorte
tout
de.
Sur,
donc on a, mais
minutes.
Là, vous allez tout nous dire en
5 minutes. Je vais vous faire
en 5 minutes
un
condensé. Donc c'est une série événement.
Le podcast
hein.
Digest que je vais vous faire. Pas voilà. Le Readers Digest, mais le podcast Digest.
C'est une série qui est devenue une série culte.
C'est une série unique, assez formidable, basée sur un livre de 1985.
Ouais, de Margaret Atwood, oui, que je vous conseille de lire. C'est un très bon livre.
Et qui était. Précurseur presque dans les idées, c'est-à-dire qu'en 1985, on pouvait penser que c'était de la science-fiction, ce qu'elle racontait. Maintenant, ça devient terriblement actuel. The Handmaid's Tale est l'histoire d'une... C'est une dystopie. C'est une histoire d'une société contemporaine, mais un peu future, dans laquelle, suite à un prétexte, manque de fertilité de la part des femmes, etc., il y a une théocratie qui s'est emparée des États-Unis. Et qui fait qu'il n'y a plus de démocratie du tout, mais que les rares femmes qui restent fertiles sont devenues des personnes bonnes à violer de telle manière qu'elles puissent enfanter des enfants de la caste supérieure. Dit comme ça, c'est monstrueux, et vu comme ça, c'est absolument monstrueux. Mais c'est une réalité. Donc, les rares femmes devenues fertiles sont devenues des servantes écarlates.
Des esclaves, en fait.
Des esclaves, sexuels, mais des esclaves dans le but uniquement d'enfanter, auprès de couples nantis, on va dire. Donc, elles sont revêtues d'une tenue écarlate, d'où le titre, la servante écarlate, d'un bonnet blanc. Tout ça étant devenu maintenant de plus un symbole un peu politique, puisque ça intervient dans pas mal de congrès, pas mal de manifestations pour les droits des femmes. C'est devenu véritablement un symbole. Et toute la série est vue par les yeux d'un personnage, June, qui s'appelle Offred, qui a été rebaptisée Offred. Offred parce qu'elle est de Fred. Elle appartient à Fred.
Oh, quelle horreur.
June est interprétée par Elisabeth Moss. Elisabeth Moss qu'on avait vue, entre autres, dans Mad Men.
Mad Men, oui, qui faisait la jeune secrétaire.
La jeune secrétaire dans Mad Men. Et qui était aussi dans Top of the Lake. Et qui est dans le rôle principal de cette femme qui a été... dont on a arraché l'enfant. Anna... et qui est maintenant au service d'un couple de nantis jusqu'au moment où elle doit tomber enceinte et jusqu'au moment où elle doit donner naissance à son enfant, ce qui va se passer dans la saison 3. À travers ses yeux, elle est à la fois soumise, parce qu'elle n'a pas le choix, à la fois il y a une activité militaire, enfin il y a des opérations militaires, il y a tout un service militaire qui fait que celles et ceux qui osent se rebeller sont pendus, sont assassinés, tués ou envoyés dans des camps. Enfin, c'est absolument terrifiant. C'est monstrueux.
Alors, quelles sont les intrigues, en fait? C'est l'histoire des femmes qui
L'intrigue, c'est la rébellion possible.
Femmes contre les hommes, ou est-ce que...
L'intrigue, c'est la femme ne peut pas se rebeller. La femme, on a interdiction pour la femme de lire. d'avoir une quelconque activité autre que d'aller au marché ou servir les hommes ou servir les couples nantis. Donc c'est ça leur activité principale. Ou d'enfanter, donc pour les rares qui peuvent encore le faire. Donc elles n'ont que cette activité-là. Certaines essayent de s'échapper, de s'évader et de se réfugier au Canada, qui n'est pas sous joug de Gilead, donc cette théocratie qui s'est mise en place et de ce pouvoir militaire qui s'est mis en place. D'autres vont s'accommoder ce système.
Ça veut dire que les hommes n'ont pas d'histoire d'amour ? Il n'y a pas d'histoire d'amour ?
Si, avec leurs femmes.
Voilà.
Uniquement.
Et comment est perçue cette série ? Comment a été perçue cette série ? Elle a choqué, États-Unis.
Aux États-Unis.
Alors la série est devenue le totem de la chaîne Hulu. Qui est une plateforme américaine un peu comparable à Netflix, et un peu comme toutes les chaînes qui ont besoin de leur série de prestige. Il y a eu House of Cards sur Netflix, il y a eu Soprano pour HBO, etc. Et ben c'est devenu la série totem de Hulu, la série qui fait beaucoup parler, qui est pas obligatoirement la plus vue, mais qui fait beaucoup parler.
Ouais.
C'est elle qui a remporté pratiquement tous les Emmy Awards. C'est la première série
Golden
d'une plateforme.
Le Golden Globe aussi, ça a reçu le Golden Globe de la meilleure série, et Elisabeth Moss, celui de la meilleure actrice.
C'est quand même assez insensé. C'est la première série issue d'une plateforme, créée spécifiquement pour une plateforme, à recevoir des Emmy Awards et des Golden Globes, c'est Handmaid's Tale. Parce que le sujet interpelle absolument tout le monde, que la réalisation est somptueuse, que l'interprétation est absolument sans faille, entre autres Elisabeth Moss, puisque tout est vu par ses yeux. C'est, on sent dans son regard, dans ses yeux et dans sa voix off qu'elle veut se rebeller contre cet esclavage, mais qu'elle est tenue par non seulement la menace d'être tuée, mais aussi par le fait que sa fille est retenue prisonnière. Mmh. Elle est dans une autre famille, elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, etc. Enfin, c'est absolument déchirant. Mais petit à petit, saison après saison, la rébellion se met en place.
Mmh. Et ça a un impact dans la vie réelle et dans la vie politique américaine, surtout.
Dans la vie politique américaine, c'est de pire en pire. La série a démarré en 2017. Ensuite, il y a eu les élections, que l'on connaît. Ouais. Et puis Trump. Maintenant...
Et puis certains y ont vu des parallèles. Non, entre la série et...
Le livre date de 1985, ouais. Donc...
Oui, ce qui paraissait du domaine un petit peu du fantastique, finalement, il y a des parallèles qui sont faits aujourd'hui avec la politique de Trump, entre autres.
Et maintenant, les personnages et la série Handmaid's Tale devient un peu le symbole de toutes les protestations, un emblème de... Alors je lis, un emblème de solidarité entre femmes et de la collaboration sur les questions des droits de la personne.
Ouais.
Et c'est vraiment ça, quoi.
C'est même que dans une interview, Elisabeth Moss explique que la situation aux États-Unis, en ce moment aux États-Unis, je pense que nous sommes dans une situation assez terrifiante. C'est d'autant plus effrayant que ça ressemble un peu trop à The Handmaid's Tale. Je trouve totalement ahurissant le fait de voir des autorités imposer aux gens ce qu'ils doivent croire, aimer et quoi faire avec leur corps. Évidemment, elle fait référence à tout le débat sur les lois concernant l'avortement.
On est en plein dedans. La série ne fait pas exprès. Encore une fois, le livre date de 1985. Il y a déjà eu un long métrage qui a été fait quelques années après, en 1990, au cinéma. Donc, si vous voulez, le sujet est pas... Et puis, les dystopies, ça existe depuis longtemps. Si vous vous souvenez de la série V, par exemple, qui était aussi une espèce de dystopie dans laquelle...
On devait mourir à 30 ans, c'est ça
Non, ça, c'était l'âge de cristal.
Ah, l'âge de cristal. Parce
Mais V, c'était des extraterrestres qui arrivaient et qui disaient « Non, mais on va tous... On est bienveillants, on va tous vous guérir. » Et en fait, c'était une allégorie de l'invasion par les forces nazies de l'Allemagne des années 40. Enfin, c'était vraiment ça. Le thème, c'était « Ça peut arriver aussi dans... » une société démocratique.
Est-ce qu'il y a plus de 3 saisons, demande Sandra.
Alors, il y aura plus de 3 saisons. Le truc intéressant, et c'est en parallèle presque avec Game of Thrones, c'est que la saison 1 était adaptée du livre original, fait par l'auteur du livre, qui supervise...
Margaret Atwood, Margaret Atwood.
Tout à fait, qui supervise en effet la série. Mais à partir de la saison 2 et la saison 3, donc, qui commence à être diffusée sur OCS, depuis la semaine dernière... tout à fait, donc, et qui diffusait pratiquement en direct avec les États-Unis.
Absolument.
C'est les scénarios complètement originaux. Le producteur et le showrunner travaillent avec l'auteur pour continuer l'histoire, même si dans le livre original, il y a à la fin du livre une légère conclusion, que je ne vais pas vous révéler ici, mais qui est un peu spoiler, bien évidemment. Mais tout de même, c'est absolument pas dans le bouquin. Donc là, ils sont en train d'inventer la suite. C'est grosso modo la suite que tous les lecteurs attendent depuis 30 ans, quoi. Qu'ils sont en train d'inventer. Ce qui est formidable. Et logiquement, d'après le showrunner, il envisage une saison 6, 7, 8.
Ah bon,
si ça fonctionne, si ça marche. Alors on se demande si le sujet peut...
Oui, peut être tiré.
Parce que 4 et 5,
c'est
déjà signé, tourné.
4 est déjà envisagé. La 3 est en cours de diffusion, 4 est déjà envisagé. Mais ce qui se profile à l'horizon, c'est que le fait qu'il va y avoir une rébellion et que le personnage principal de June va être, sans doute, mais ça c'est moi qui le dis, hein, à la tête de cette rébellion. Les bandes annonces de la saison 3 ont tendance un petit peu à le montrer, un petit peu. Mais il faut se méfier aussi de ce qu'on essaie de nous
faire. Ça marche bien, ça cartonne.
Comment vous expliquez justement le succès de cette série qui est pas facile, le thème est pas évident.
Parce qu'à partir du moment où on s'abonne, justement, on fait la démarche de s'abonner à une chaîne et pas simplement de tourner un bouton pour regarder les programmes gratuits, on s'attend à avoir quelque chose qui n'est pas ailleurs. Mmh. On s'attend à voir un programme peut-être, on s'attend à voir des programmes faciles d'accès, on s'attend à passer un bon moment, mais on s'attend à avoir des programmes de qualité, mais on s'attend aussi à en avoir pour son argent. Autant visuellement, avec des Game of Thrones, avec des choses comme ça, que intellectuellement. Mmh. Et tout comme House of Cards, tout comme des séries comme ça, ça correspond complètement. Je disais tout à l'heure, la plupart de ces chaînes payantes, c'est les Canal+, en France, ou les ETS, ont besoin de séries qui font que, quelque part, on en a pour son argent. Ouais. On explique l'abonnement. C'est pas la série policière habituelle. Ouais. Et c'est complètement ça.
Signaler que TF1 Série Film a diffusé la saison 1 de The Handmaid's Tale en octobre dernier. Ça a extrêmement bien marché puisque le premier épisode a réuni 1 million 10 000 téléspectateurs, c'est-à-dire 4,3% du public pour le premier épisode. Donc,
c'est énorme.
Oui, c'est absolument énorme. Il y a deux saisons de décalage.
Mais il y a une notoriété de cette série qui est quand même très importante. De plus, encore une fois, le sujet... C'est pas de la science-fiction, quoi.
C'est presque de la politique fiction. Ouais.
On est en plein dedans.
Ouais, donc ça démarre, donc troisième saison.
Troisième saison, c'est sur OCS, quasiment en direct avec les États-Unis. Ouais. Et c'est toujours aussi ébouriffant. Alors certains critiques américains disent oui. Comme vous l'avez dit, Valérie, ça commence un petit peu à tirer
sur la ligne.
Ça provoque un peu des événements, puisque même Kylie Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian,
a organisé une soirée
sur le thème de The Handmaid's Tale. Alors, elle s'est fait pourrir sur toute la toile. Oui, parce que quand même, c'est de prendre les femmes esclaves comme emblème d'une grande soirée. C'est limite, on va dire. Ouais.
Voilà, là, je suis absolument d'accord. En effet, autant les servantes écarlates peuvent devenir des symboles... Ouais. Autant, il ne faut pas les utiliser n'importe comment.
Ouais,
parce que si c'est simplement pour faire du fun avec un joli costume, tout en rouge et tout, avec une grande robe, ça veut dire qu'on n'a pas capté le message de la série. Quoi. C'est
elle n'a peut-être pas tout compris.
Dans les séries à ne pas manquer, il y a Tchernobyl, que moi je viens de finir de regarder.
C'est le chef-d'œuvre absolu.
Qui est sur OCS et qui est une série d'une qualité absolument incroyable sur la catastrophe de Tchernobyl. Alors hier, je voyais sur Twitter des gens qui plaisantaient en disant on m'a demandé s'il y aurait une saison 2. Non, il n'y aura pas forcément de...
C'est une mini-série de
5 épisodes.
C'est extraordinaire.
C'est glaçant, c'est super bien réalisé.
On connaît un peu la fin, c'est pour ça.
Ça démarre avec la fin, mais c'est vrai que sur l'Union soviétique...
Surtout basé sur les réactions des gens au pouvoir.
Absolument.
Comment ils vont gérer la catastrophe, comment ils vont gérer le déni face à cette catastrophe. Et c'est, à mon avis, la preuve absolue de ce que peut faire la fiction face au documentaire. Documentaire, dans un cas comme Tchernobyl, c'est totalement lié aux images que l'on a et elles sont relativement faibles. La fiction peut complètement recréer ce qui s'est passé dans la tête des gens à l'époque et qu'on n'a jamais vu. Et c'est vraiment une série extraordinaire.
Donc ça s'appelle Tchernobyl, c'est sur OCS. Et également sur OCS, ne manquez pas donc La Servante Écarlate, de Handmaid's Tale.
Ouais, c'est dur à dire.
C'est dur à dire.
Pour le podcast, moi j'ai mis du temps.
Mais
j'ai
vous le dites
plusieurs fois.
Handmaid's Tale. Et quand on commence à regarder, on est littéralement accroché. Donc troisième saison qui est diffusée sur OCS en même temps qu'aux États-Unis. Donc
on peut voir la première et la deuxième saison.
Mais on peut voir la deuxième saison.
Tous les épisodes en ligne.
Allez, merci beaucoup Alain Carazé. On retrouve donc votre podcast Previously où vous en direz peut-être un petit peu plus dès demain.
J'en parle
sur le site de Télé Loisirs. 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Oh Valérie, vous en avez marre du foot? Je vais vous en mettre une petite couche, ma bonne dame. Ce soir, on retrouve de nouveau les Bleus sur M6 dès 20h45 et ça commencera à l'heure pour un match qui les oppose à l'Andorre et qui compte pour l'Euro 2020. Pour en savoir plus sur l'enjeu de ce match, on a téléphoné à Jean-Marc Ferreri qui va commenter ce match aux côtés de Denis Balbir. On lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de regarder ce match supplémentaire de football. Ouais.
Je suis pas sûr.
Allez, il faut absolument rester sur M6 ce soir pour regarder ce match qualification de l'Euro 2020 pour voir les Français après ce bon match amical face à la Bolivie. On espère une victoire face à la Turquie. Il faut que les Français Eh bien, on espère tous face le doublé Coupe du Monde Euro 2020, pourquoi pas. Tout le monde espère et rester sur cette très bonne dynamique qu'ont les hommes de Didier Deschamps et gagner ce match, même si l'affiche n'est pas très attrayante. Il faut absolument se qualifier et pourquoi pas être après champion d'Europe.
Eh ben oui, c'est vrai que c'est pas André Andorre France, c'est vrai que c'est pas une affiche qui fait rêver. Hein.
Mais c'est sur M6.
Voilà, manifeste qui cartonne sur TF1, que moi j'aime bien. Alors je sais pas ce qu'en pense le spécialiste. Bon, non, il est pas d'accord.
Mais c'était sûr. Bon.
On parlait tout à l'heure de Rambit, c'est elle qui tourne un peu en rond.
Ouais.
Voilà. Bon. Manifeste.
Oh, ouais, moi j'aime bien. Voilà, je suis rentrée dans le truc. Donc voilà, Manifeste, il y a un grand cri d'amour sur France 2.
Ouais, la pièce de théâtre.
La pièce de théâtre avec Michel Bernier.
Michel Bernier et Josiane Balasco.
Et puis Tandem.
La série policière,
avec,
oui.
Absolument, avec Astrid Veillon, c'est ça. Monsieur, je sais tout bien. Sur Canal+, enquête de santé sur les compléments alimentaires.
Et vous savez quelle est la meilleure série du moment quand même? C'est Double Jeu sur France 2.
Ah, on est d'accord,
c'est
on les a reçus.
Formidable.
On les a reçus. Vous aimez les fictions françaises?
C'est formidable. Bah, j'aime les bonnes fictions. Double mais jeu, c'est formidable.
Reçu,
c'est du Ali McBeal à la française, c'est génial.
Sinon, je vous signale quand même que sur ces bits, vous avez quand même les
Sous-doués. Vous m'avez
enlevé les mots de la bouche. Avec Maria Pacom.
Et sinon, il n'y a pas de policiers et de gendarmes quelque part.
Non, mais c'est Manifeste qui va cartonner.
Manifeste va cartonner, effectivement.
Peut-être le match de football, hein.
Moi, je dis TF1, France 3.
TF1,
M6, moi.
Ouais, je dis quand même M6 devant
TF1. TF1, M6 devant TF1.
Bah, le match de foot devant Manifeste, devant
Andorre.
La série.
Ah
non,
bon,
moi, je dis TF1, M6.
Moi aussi. Allez, on verra ça demain, on fera les comptes. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.